Et tout de suite, hein, donc on retrouve Laure Paulin de la NAFE, Marine de Haas de la CIMADE, donc au retour de leur mission à la frontière franco-italienne. Et ça a été enregistré à l'occasion de l'apéro politique au Centre international de culture populaire à Paris le 10 juillet dernier.
Bah, je voulais représenter peut-être Laure Paulin de la NAFE et Marine de Haas de la CIMADE qui reviennent d'une mission à la frontière italienne, qui vont nous raconter un petit peu ce qu'elles ont vu et puis aussi ce qui se passe en termes de mobilisation citoyenne par là-bas et aussi de répression. Dans les deux sens, malheureusement. Et donc, Rosalie fera le lien, du coup, pour le CICP, cette fois, comme disait Sylvain, et du point de vue de notre partenaire italien, qui a un centre social autogéré. Je présenterai un petit peu ce que c'est, parce que c'est une réalité qui est spécifique à l'Italie aussi, et qui est très intéressante, enfin, qui nous intéresse, nous, beaucoup. Et voilà, qui fera le lien sur les mobilisations aussi qui se passent en Italie, un peu plus loin de la frontière, mais voilà, quand même, il y a plein de choses qui se passent.
Moi, je suis Laure de la NAFE. Ce qu'on vous propose avec Marine, c'est plutôt qu'on vous fasse un monologue pendant un petit moment. C'est que si vous avez des questions, vous nous interrompez, vous n'hésitez pas à nous poser des questions, surtout qu'en plus, il y a des choses qui ne sont pas claires, parce que c'est vrai que nous, on commence à avoir un peu l'habitude de faire un peu état de ce qu'on a vu à la frontière franco-italienne. Et du coup, faut pas hésiter à nous poser des questions, à demander des précisions. Avant de rentrer dans le cœur de notre mission et de ce qu'on a observé et des conséquences depuis, on vous propose de faire un tout petit état des lieux, en fait, à partir d'un postulat. Moi, je vais vous parler un petit peu du rétablissement des contrôles aux frontières et Marine parlera un petit peu plus de ce qui se passe au niveau européen en lien avec ce qui se passe en Italie. Comme vous le savez, les contrôles aux frontières ont été rétablis le 13 novembre 2015. Initialement, il devait être rétabli pour... dans le cadre de la COP21 et le soir du 13 novembre, ils ont été rétablis avec... l'instauration de l'état d'urgence. Depuis, il a été renouvelé, et donc là, l'état d'urgence a été renouvelé, et il en va de même pour le rétablissement des contrôles aux frontières. Et en principe, donc, le rétablissement des contrôles aux frontières est prévu dans le code frontières Schengen, qui permet du coup aux États, dans certaines situations spécifiques, de rétablir les contrôles aux frontières. Le maximum qui est prévu dans le code, c'est 2 ans. Donc en théorie, ça devrait prendre fin le 13 novembre 2017. On pense qu'ils vont trouver un petit subterfuge pour maintenir le rétablissement des contrôles aux frontières. Pour l'instant. Voilà, notamment le projet de loi. Après, sinon, si ça ne s'est pas passé, ils ont toujours la possibilité de supprimer ce principe-là pendant une journée et de le remettre pour 2 ans. Comme ça, on est reparti pour 2 ans. Voilà, donc ça, pour l'instant, c'est ce qu'il en est en termes de rétablissement des contrôles aux frontières. À la frontière franco-italienne, la particularité, c'est que les contrôles ont été rétablis en amont. Depuis juin 2015, en fait, il y avait des contrôles systématiques dans les trains, des contrôles de toutes les personnes dites d'apparence, alors je mets des guillemets, hein, parce que je cite, d'apparence migrante. Et du coup... avec contrôle systématique et du coup contrôle au faciès. Du coup, la NAFE, la CIMADE, le GISTI et la DDE, c'est les avocats pour la défense des droits des étrangers, avaient initié un contentieux à l'époque en démontrant qu'il y avait des contrôles systématiques et donc discriminatoires, et également discriminatoires. Et on s'était fait envoyer bouler par le Conseil d'État. Vous voyez, ça. Vous verrez tout à l'heure l'impact du Conseil d'État sur les décisions et les agissements de l'administration. On en a un exemple plus récent. Ce qui est intéressant de voir aussi dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières, c'est la distinction, en deux mots, entre point de passage frontalier et point de passage autorisé. Parce que les points de passage frontaliers, ce sont les points de passage des frontières externes. Donc il y en a 118 en France, donc principalement sont les ports, les aéroports et éventuellement les gares internationales. Depuis le rétablissement des contrôles aux frontières, ont été instaurés aussi des points de passage autorisés. Il y en avait 285 en 2015 lors du rétablissement des contrôles et dans les Alpes-Maritimes, il y en a 7. Ce qu'on a pu constater, et on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est que l'administration fait souvent un détournement des points de passage autorisés. À l'origine, les points de passage autorisés ont été instaurés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils sont utilisés afin de lutter contre l'immigration irrégulière. Quel est l'impact du coup à la frontière franco-italienne de ce rétablissement des contrôles aux frontières? Bon, même si on va y revenir, hein, parce que c'est un peu, ça fait, c'est un peu le fil, la trame de notre mission. C'est donc les contrôles ciblés et discriminatoires, la privation de liberté aux frontières et le renvoi forcé des personnes. On l'a un peu vu déjà, notamment des mineurs et des demandeurs d'asile. Mais on va y revenir un petit peu.
Ce qu'on peut dire aussi, juste pour faire une transition, c'est que on parle souvent de l'espace Schengen comme un espace youpi, il n'y a plus de frontières, de liberté de circulation, etc. C'est quand même un espace où il y avait des contrôles. Il y a toujours eu des contrôles, ils n'ont jamais été abrogés. Simplement, c'est le principe de contrôle frontière systématique qui a été abrogé. C'est-à-dire que les polices nationales n'ont plus le droit, dans le cadre de Schengen, de faire des contrôles fixes sur la durée. Donc c'est régi par un certain nombre de dispositions légales. Dispositions légales qui tombent avec le rétablissement des contrôles aux frontières dont nous a parlé Laure. Moi, ce que je voulais un peu, c'était replacer ça dans un contexte européen pour dire que surtout depuis 2015, depuis la très mal nommée crise migratoire avec plein de guillemets, on a quand même un discours de l'Union européenne et de certains États membres qui est vraiment sur l'idée qu'il faut sauver Schengen. Et c'est pas une expression que j'ai inventée, c'est vraiment sauver l'esprit de Schengen. Donc pour sauver l'esprit de Schengen, il faut absolument renforcer les frontières extérieures pour que nous, citoyens européens, puissions circuler en paix dans notre espace Schengen. Le souci, c'est qu'en fait, depuis 2-3 ans, voire depuis même plus, depuis 5 ans, on a des États membres qui grignotent le code Schengen de plus en plus en rajoutant des dispositions qui permettent de rétablir des contrôles aux frontières en cas de défaillance aux frontières extérieures, en cas de menace, en cas de ci, en cas de ça. Donc là, on se retrouve avec, pour l'instant, 5 États. L'Allemagne, le Danemark, l'Autriche, la Norvège et il m'en manque un, j'ai oublié. Enfin bref, qui ont rétabli leur contrôle aux frontières avec l'argument que la Grèce ne faisait pas son boulot. C'est ce qu'on entend régulièrement dans le contrôle des frontières extérieures et que du coup, il fallait que eux se protègent et protègent leurs frontières intérieures. Donc ça a été validé et c'est revalidé depuis des mois par la Commission européenne, même si là, elle a dit que ça devait prendre fin dans 2 mois, je crois. La France, c'est un peu spécifique parce qu'il y a l'état d'urgence et que du coup, elle se base sur un autre article du Code Schengen, troubles à l'ordre public et menaces sur le territoire. Donc en partant vraiment du principe en arguant de la lutte antiterroriste. Mais ça revient au même parce que c'est des contrôles systématiques à des points spécifiques. La deuxième chose, c'était de... alors, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec la politique migratoire européenne. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des hotspots? Un peu. Donc, c'est des centres d'identification des personnes migrantes qui arrivent sur le sol italien. Quand on a un regard un peu plus critique sur ces endroits, on parle plutôt de centres de tri et de filtrage aux frontières. Ils sont en Grèce et en Italie. En Italie, vous en avez trois qui sont en Sicile et un qui est dans les Pouilles, à Taranto. Et donc, c'est l'endroit où les personnes arrivent, sont identifiées, où on prend leurs empreintes. Et ensuite, ça va servir pour dans le cadre du règlement de Dublin, que vous devez aussi, je pense, connaître, mais je ne rentrerai pas dans les détails maintenant, sinon on restera là toute la nuit. Et du coup, en fait, vous avez un phénomène où les frontières internes à l'espace Schengen, notamment au nord de l'Italie, mais pas que, mais on va parler de ça aujourd'hui, mais il y a d'autres frontières internes qui sont fermées depuis plusieurs années, notamment à l'est, du côté de l'Autriche et de la Hongrie. Et du coup, vous avez l'Autriche qui déploie l'armée depuis quelques jours à sa frontière, parce qu'elle ne veut pas que les gens passent depuis l'Italie. Vous avez la Suisse qui a rétabli des contrôles de manière complètement unilatérale à Como, au nord de l'Italie. Et vous avez la France qui, depuis 2 ans, bloque le passage des personnes migrantes à Menton, donc du côté de Vintimille. Voilà, donc ça, c'est un peu le contexte dans lequel, en plus, l'Italie voit des personnes arriver, notamment de Libye, par milliers chaque jour, et demande à ses partenaires européens d'ouvrir les ports. Et la seule réponse qu'on lui apporte, c'est de dire qu'il faut négocier avec la Libye. Donc voilà, sympa, la solidarité européenne. Et vous avez aussi un phénomène qui a été pas mal relevé par les militants italiens, notamment par plusieurs assos, notamment l'ASGI et Archi, qui sont des membres aussi du réseau Migrants Europe, qui ont relevé qu'en fait, depuis Como et depuis Vintimille, il y a des phénomènes de rafles qui sont organisés par la police, donc où des bus sont affrétés avec les personnes qui sont interpellées ou les personnes qui sont réadmises depuis la France, donc depuis la PAF française, on va y revenir juste après, qui sont mises dans ces bus et qui sont ramenées au sud de l'Italie, à Taranto, donc dans les hotspots, c'est-à-dire dans des centres qui n'ont pas du tout... Ces personnes, elles sont déjà identifiées, elles sont passées dans les hotspots en arrivant, mais simplement, elles sont rendues invisibles parce qu'on les éloigne de Vintimille, parce qu'il faut désengorger Vintimille. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose en France. c'est exactement les mêmes stratégies qui ont été mises en place à Calais, avec différentes stratégies. Hein. Il y a des années, c'est des placements en rétention. Il y a des années, c'est on va créer des CAO, etc. Mais avec vraiment cette idée de désengorger des points de fixation. Là, je reprends le vocabulaire du ministère de l'Intérieur pour en fait que les populations ne s'alarment pas trop. Alors qu'en fait, c'est complètement débile parce que quelques jours plus tard, alors non seulement ça coûte très cher pour les migrants et pour l'État, mais en plus, les personnes reviennent puisqu'ils ne peuvent pas les laisser enfermer dans des hotspots. Enfin, ils n'ont pas la capacité, il n'y a aucune base juridique. Donc les personnes reviennent à Vintimille et réessayent de passer. Donc on est vraiment dans un jeu de ping-pong, voilà, du sud de l'Italie vers le nord. Et puis après, une fois qu'ils sont en France, s'ils arrivent à passer, s'ils ne vont pas à Calais, entre Calais et Paris. Enfin, voilà. Donc c'est aussi à remettre un peu dans un contexte plus global européen.
Alors du coup, nos associations ont décidé de faire une mission en décembre de l'année dernière, saisis chacun par nos acteurs locaux, nos militants locaux, sur différentes problématiques. Et ce, depuis plusieurs mois. Du coup, on y a été pendant une dizaine de jours, à peu près du 15 au 20 mai. Dans ce cadre-là, on a rencontré pas mal d'acteurs locaux. Donc, des deux côtés de la frontière, nous avons pu rencontrer des associations. Côté français, on a eu pas mal de fins de non-recevoir de la part de l'administration, notamment de la police aux frontières à tous les échelons, du ministère de l'Intérieur aussi. On a pu rencontrer le président du tribunal administratif et le procureur de la République. Ce qui a été intéressant, c'est côté italien, nous avons pu rencontrer la police aux frontières italiennes. Et ensuite, on a pu faire beaucoup d'observations. Donc, on a fait des observations dans tous les PPA dont je vous parlais tout à l'heure, dans les gares. À cet endroit-là également, on va y revenir un petit peu après, c'est le local de la police aux frontières à Menton, Pont-Saint-Louis. Et voilà, je crois que globalement, ce sont tous les acteurs locaux qu'on a pu rencontrer. On est aussi monté dans la vallée de la Roya. On a fait aussi une maraude pour les personnes qui sont bloquées à Vintimille. Voilà, du coup, je vais laisser Marine un petit peu développer sur nos constats en fait, de mission. Ouais.
Peut-être aussi compléter en disant qu'un des... Alors, On s'était un peu demandé, à la base, l'idée c'était de récolter des données pour documenter des situations, des violations des droits des personnes migrantes à cette frontière. Après, pour les personnes qui s'intéressent un peu à cette situation, il y avait eu un travail qui avait été fait par Amnesty en janvier, qui avait publié une synthèse d'un rapport. Et nous, on a estimé que... Enfin, les constats qu'on allait faire, parce qu'on est en lien avec les militants locaux, etc. Le temps qu'on écrive un énième rapport, une énième synthèse de rapport, on ne serait pas forcément... Enfin, voilà, en termes d'efficacité, ce ne serait peut-être pas forcément la meilleure idée. Par contre, ce qu'on avait identifié... alors, évidemment, récolter des données, faire du plaidoyer, de la sensibilisation, de la communication sur ce thème, etc., bien sûr. Mais ce qu'on avait aussi identifié comme objectif intéressant, c'était de récolter des données avec un objectif spécifique de faire du contentieux. On ne savait pas encore sur quoi, mais on l'a vite su. Et du coup, voilà, l'idée, c'était de récolter des données. C'est un peu spécifique, ce n'est pas comme d'écrire un article. Des témoignages et des preuves aussi concrètes des violations à la frontière. Du coup, nous, ce qu'on a, on a les principaux constats qu'on a faits. Le premier constat, c'était que... on ne va pas rentrer dans les détails sur comment ça se passe quand vous êtes une personne sans titre de séjour et sans document de voyage et que vous arrivez sur le territoire français dans une situation où les contrôles sont rétablis. Pour ça, je vous renvoie à la merveilleuse note de l'ANAFE sur le rétablissement des contrôles aux frontières. Tout est expliqué. Mais simplement, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous arrivez sur le territoire français et que vous êtes non admis, donc vous recevez un refus d'entrée, enfin, en tout cas une non-admission sur le territoire, un refus d'entrée, vous avez quand même un certain nombre de droits, et puis c'est quand même encadré par la loi, donc vous avez un certain nombre de droits attachés à ce refus d'entrée. Notamment, vous recevez le papier. Alors, pour ceux qui sont arrivés pendant la vidéo, on voit à un moment une des deux jeunes filles qui montre un papier, vous avez peut-être vu, qui en fait est un refus d'entrée. Sauf que dans la réalité, le refus d'entrée, il fait 3 pages. Et il y a donc les informations personnelles de la personne, son âge, sa nationalité, blabla, son nom, où il a été interpellé, etc. Mais il y a aussi derrière un certain nombre de droits, donc les droits dont je vous parle, notamment celui d'être informé sur la possibilité de demander l'asile. Évidemment, tout ce blabla administratif, qui n'est pas du blabla, qui est de l'accès au droit, mais qui est écrit sur un papier, vous devez avoir le droit de le comprendre. Donc, vous devez avoir le droit à un interprète. Vous pouvez aussi demander à ce qu'un jour franc soit respecté. Ça veut dire que vous demandez à avoir un jour, donc 24 heures, pour notamment pouvoir prendre contact avec vos proches ou avec un avocat, avoir le temps d'être informé sur votre droit à faire une demande d'asile ou réfléchir à ça. Voilà. Donc ça, c'est un peu en gros. Hein, je ne rentre pas trop dans les détails, mais... Tout ce que je viens d'édicter, c'est absolument pas respecté à la frontière franco-italienne, puisque les personnes sont interpellées alors soit au point de passage, donc soit c'est des points de passage routiers, il y en a dans la Roya, il y en a à Menton, soit à la gare, donc il y a la gare de Menton-Gare avant, qu'on a vu dans la vidéo, mais il y a aussi la gare de Breil-sur-Roya, qui est dans la vallée de la Roya. Et du coup, les personnes sont interpellées et nous, on l'a observé aussi. Donc, encore une fois, c'était dans la vidéo, mais nous aussi, Enfin, vous prenez le train pour aller à Vintimille et c'est très simple d'observer ça parce que c'est sur chaque train. Les personnes sont... Donc, les CRS montent, parce que c'est des CRS à Menton-Gare avant. Ils montent dans le train, ils contrôlent les personnes... d'apparence migrante. En gros, comprenez, il se base sur la couleur de peau et sur le style vestimentaire ou s'il y a des valises ou voilà. Enfin, c'est vraiment aussi simple que ça. Bonjour, vos papiers. Ah, il n'y a pas de papiers. Ils les descendent. Et là, c'est sur le quai de la gare, donc en plein... Enfin, dehors, quoi. Où, sans interprète, on leur demande leur nationalité, leur âge. Et on leur fait la première page du refus d'entrée. on les fait éventuellement monter au premier étage de la gare. Et là, soit on les emmène à la PAF de Menton, qui est ici. Là, vous êtes vraiment... Moi, là, c'est moi qui ai fait la photo et je suis en Italie, alors que le bâtiment est en France. Et entre nous deux, il y a un pont. Donc, vous voyez, on est vraiment sur la frontière. Et donc, soit ils sont emmenés ici pour identification et pour être réadmis auprès des Italiens, soit ils sont carrément remis directement dans le train. Donc là, on a vraiment vu un grand nombre de cas différents et un grand nombre de traitements différents, selon que ce soit un majeur, un mineur, quelqu'un qui a un titre de séjour périmé en France, quelqu'un qui n'en a pas, quelqu'un... Enfin bon, il n'y avait pas vraiment de logique. La seule logique qu'on a trouvée, enfin qu'on a vue, c'était pour les mineurs. Donc là, j'en arrive à mon second point, qui est le refoulement systématique des mineurs isolés étrangers par le train. Pourquoi par le train ? Parce que, bon, déjà, c'est plus facile. Hein, on les remet dans le train, on ne paye pas de billets, ils arrivent directement à Vintimille. Mais en plus, parce que l'Italie ne réadmet pas les mineurs, puisqu'elle elle estime que la France, maintenant qu'ils sont sur son territoire, même si ils ont été interpellés dans un point de passage, la France a le devoir de les protéger et de faire... connaissez d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et l'enfant essaye de, enfin l'enfant est arrivé sur le territoire français, donc elle a un devoir de protection, et surtout le fait que à la frontière le mineur va avoir droit à son jour franc automatique, et la PAF est censée informer l'administration française pour qu'il y ait un administrateur ad hoc qui soit désigné, etc., etc. Enfin voilà. Sauf que là, comme elle n'arrive plus à les faire réadmettre par l'Italie, bah elle s'est dit « nickel, je les remets dans le train, ils arrivent à Vintimille, ça passe, nickel ». Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Donc là, on l'a vu dans la vidéo de tournée par le collectif Roya Solidaire. Les mineurs sont remis directement dans le train et donc essayent une fois, deux fois, 15 fois. Enfin, il y a vraiment des jeunes ou des mineurs qui essayent des dizaines de fois.
En fait, sur cette histoire de... le mineur étranger, c'est donc la police française qui fait de l'immigration clandestine, puisqu'elle emmène en Italie
des
gens qui ne devraient pas y rentrer.
Vous êtes toujours à l'écoute du réseau éducation sans frontières sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Mini pause musicale avec Babazoula et on reprend tout de suite avec Laure Palin et Marine De Haas, hein, enregistré le 10 juillet dernier à l'occasion de l'apéro politique du CICP consacré à la frontière franco-italienne.